Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans une nouvelle édition de Géopolis, votre émission qui explore les ordres et désordres du monde.
Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui c'est un épisode un peu spécial de Géopolis enregistré depuis Sarajevo, la capitale de la Bosnie-Herzégovine. Nous retrouvons Rodolfo Toé, journaliste italien, longtemps correspondant du Corriere della Sera sur place, qui revient sur la situation actuelle, on le sait, très compliquée de la Bosnie-Herzégovine, sous fond de tentatives de sécession de la partie serbe du pays, la Republika Srpska. Monsieur Toé, merci d'avoir accepté notre invitation. Alors vous qui êtes présent sur place depuis de nombreuses années donc en Bosnie et Herzégovine et qui connaissez très bien ce pays, pouvez-vous nous expliquer où se trouvent les blocages du système politique bosnien qui paraît très complexe et qui est une des raisons invoquées à la tentative de sécession de la partie serbe du pays ?
Moi, je dirais que la Bosnie-Herzégovine n'est pas un système complexe, si complexe qu'on le présente généralement. Il faut bien sûr les comprendre. Pour l'expliquer, et pour expliquer la situation actuelle et l'impasse actuelle et l'impasse de la Bosnie-Herzégovine au cours des dernières 20 ans, je commencerai par dire que même la Constitution ne clarifie pas si la Bosnie-Herzégovine est un pays, une fédération ou un pays fédéralisé. C'est-à-dire qu'il y a une certaine ambiguïté, même dans les accords de Dayton et dans la Constitution qui a été construite avec les accords de Dayton. On ne comprend pas si la distribution du pouvoir doit favoriser un État centralisé ou bien des autonomies territoriales qui seraient les entités et dans la Fédération de Bosnie-Herzégovine, les cantons. Donc il y a une certaine ambiguïté dans la constitution du pays qui n'a vraiment jamais été éclairci par la Constitution elle-même.
Est-ce qu'on peut considérer que la Bosnie est véritablement un État, vu la situation que vous nous décrivez aujourd'hui ?
C'est condition fondamentale qui devrait donner la légitimité à la Constitution du pays, à la structure du pays, n'ont jamais vraiment eu lieu. Même la constitution du pays qui a été approuvée, qui a été intégrée dans les accords de Dayton, qui a été d'une certaine façon imposée par la communauté internationale. Il n'y a pas une version officielle dans les trois langues du pays. Techniquement, la constitution du pays n'a même jamais été votée et approuvée régulièrement par l'Assemblée nationale bosnienne, par les parlements bosniens. Les parlements bosniens a approuvé la constitution du pays, mais les députés, les membres du parlement de Republika Srpska se sont refusés de participer à la session.
Est-ce qu'aussi les critiques qu'on entend dans la partie serbe sur l'État bosnien sont aussi motivées par la façon dont la communauté internationale a essayé de pousser à la construction d'un État central, a été finalement extrêmement intrusive dans la construction de la Bosnie-Herzégovine actuelle ?
Dodik, du point de vue l'interprétation historique. Je ne suis pas un expert juridique, donc j'ai lu pas mal des interprétations de la constitution bosnienne, mais je ne suis pas un expert des droits en Bosnie-Herzégovine. En ce qui concerne l'histoire de la construction constitutionnelle du pays, Dodik a une vision qui est quand même justifiée par une certaine façon dans laquelle la communauté internationale a géré les réformes en Bosnie-Herzégovine en imposant aussi la construction de certaines institutions où il y a des institutions communes, il y a des institutions centrales qui sont nécessaires à tout État souverain. Par exemple, une armée unie doit nécessairement exister dans tout pays souverain. C'est vraiment la base du droit public, de la philosophie du droit moderne, je crois. Mais il y a aussi des structures qui n'étaient pas présentes dans les Dayton originales, dans les accords de Dayton. Je pense qu'il est possible de se demander objectivement aujourd'hui combien les Serbes, les représentants serbes, dans cet exemple concret, ont supporté, ont vraiment soutenu, ont partagé cette décision et combien en réalité ils ont été, et si effectivement ils ont été poussés ou forcés à accepter des compromis. Je ne vais pas m'exprimer vraiment sur les mérites des requêtes de Milorad Dodik ou des revendications des Serbes de Bosnie-Herzégovine, parce que quand même il y a aussi d'autres considérations à faire. Il n'y a pas seulement une question de retourner à la lettre originale de Dayton, mais il y a aussi une question de opportunités politiques, opportunités sociales, qu'est-ce qui profite les pays maintenant, qu'est-ce qui est mieux pour la Bosnie-Herzégovine en tant que communauté, en tant que pays. Donc on peut toujours mettre en discussion les motivations de Dodik et si ces revendications conduisent à un état meilleur ou pire, mais le processus qui a mené à la construction des structures centralisées de Bosnie-Herzégovine effectivement a été fait avec une énorme pression de la communauté internationale.
Justement, tu parles de pays. Toi qui es là depuis 10 ans, quand tu vas en République Srpska ou dans le reste de la Bosnie, la Fédération, tu as l'impression que tu es dans le même pays ou...
Franchement...
On me pose la question en Belgique des fois. Hein.
Ouais. Là, c'est complètement une question qui touche à des impressions personnelles.
Ouais,
donc
oui,
moi, je dirais que non. Quand même, il y a une question d'identité partagée par les peuples bosniennes qui est, d'après moi, mon opinion personnelle, professionnelle, quelque chose qui est très difficile à repérer. C'est qui conduit parfois à une ambiguïté parce que on revient souvent à une sorte de yougo-nostalgie aussi quand il s'agit de l'intervention de la communauté internationale en Bosnie-Herzégovine, parce que on considère la période yougoslave comme une période où les communautés bosniennes pouvaient exister, coexister, sans tenir compte des différences. On voit ça par exemple dans l'éducation. Et les problèmes en Bosnie-Herzégovine est que franchement, tout observateur s'est dit bon, mais vous étiez bien auparavant, vous êtes plus ou moins, vous êtes les mêmes peuples, vous parlez la même langue, donc cette coexistence qu'il y avait aux périodes yougoslaves est souvent vue comme une époque très positive pour le pays, ce qui oublie évidemment le fait que il y avait aussi des gens, des communautés qui n'étaient pas tout à fait contentes en Yougoslavie, dont les droits n'étaient pas tout à fait respectés en Yougoslavie, dans la Bosnie-Herzégovine yougoslave, et surtout ne tient pas compte du fait que même les pouvoirs socialistes, communistes en Bosnie-Herzégovine dépendaient d'une lecture ethnique et communautaire de la situation. Sauf le passé yougoslave, il n'y a pas vraiment une communauté d'idéal, une communauté symbolique qui puisse se définir commune à tous les citoyens de Bosnie-Herzégovine et qui puisse fonctionner d'une façon unificatrice dans les pays.
Depuis 10 ans que tu es là, tu n'as rien vu, la question n'a pas trop évolué, tu aurais dit à peu près la même chose.
Non, là les dernières 10 ans en Bosnie-Herzégovine ont été une période complètement ratée. Il y a une stagnation extrême. Il n'y a vraiment rien qui s'est passé en Bosnie-Herzégovine pendant 10 ans. Il n'y a que deux choses qui ont été faites et qui ont marqué un vrai progrès par rapport à la situation que j'ai trouvée quand je suis venu ici en fin 2010, début 2011. Et là, c'est les recensements en 2013 et les élections de Mostar. Là, c'est vraiment les deux... Oui, les deux événements symboliques qui ont marqué une différence concrète par rapport à la situation telle que je l'ai tel que je l'ai trouvé au début de mon expérience dans le pays il y a 10 ans. C'est une période de stagnation absolue.
Avec tout le monde qui part en plus.
Avec tout le monde qui part, mais là aussi, j'ai fait attention à ne pas considérer complètement l'exodus des gens de Bosnie-Herzégovine comme un résultat de la stagnation politique, parce que quand même, cette région, les tendances économiques dans cette région sont là depuis beaucoup de temps. Les Balkans occidentaux sont une région où les gens ont une très bonne culture. Ils sont quand même tout à côté des régions européennes qui sont parmi les plus riches régions du monde. Le nord d'Italie, l'Autriche, l'Allemagne. Donc, un salaire moyen en Bosnie-Herzégovine est de 400 euros. Voilà, les salaires moyens en Allemagne, en Autriche, sont des multiplications du salaire moyen en Bosnie-Herzégovine. Donc, même si la situation politique était optimale en Bosnie-Herzégovine, franchement, il y a aussi des tendances économiques qui sont des tendances qui dépendent de la longue période. Il y a des estimations, je pense. Je me rappelle plus si c'est le Fonds monétaire international ou la Banque européenne de reconstruction qui a fait des recherches en expliquant que la convergence de la richesse entre les Balkans occidentaux et l'Union européenne est possible dans 200 ans.
Ouais.
Donc là, il y a des milliards de gens qui partent. Il y a évidemment un facteur d'extrême frustration politique et d'insécurité qui existe. Mais aussi, il faut aussi tenir compte que malheureusement, les pays qui sont issus de l'ancienne Yougoslavie sont quand même des pays traditionnellement pauvres, qui ont la chance ou les malheurs d'être tout à côté des régions très, très riches qui, historiquement, ont toujours attiré beaucoup de travailleurs bosniennes, croates, serbes. Ça arrivait tous les temps, même pendant la Yougoslavie, et pourtant tout le monde aujourd'hui rappelle la Yougoslavie comme une époque heureuse, riche, où il y avait du travail pour tout le monde, où il y avait beaucoup de stabilité politique. Et donc ça démontre un peu que l'émigration des Balkans occidentaux, malheureusement, est une tendance sur la longue période.
Et avec tout ce que tu décris, là, l'État qui ne fonctionne pas, l'économie qui ne décolle pas, ce qui se passe avec les tentations séparatistes d'une partie du pays, ça ne t'étonne pas, t'sais.
Non, pas trop, pas trop. Parce que ce qui est arrivé depuis 10 ans est vraiment une stagnation complète. C'est-à-dire qu'il y a, je pense, 8 ans, que les parlements dans la Fédération de Bosnie-Herzégovine, donc les parlements d'une des entités du pays, et les parlements nationaux arrivent à approuver vraiment 5-6 lois par an. C'est vraiment les niveaux des blocages et des stagnations institutionnelles, surtout à niveau de la fédération et au niveau de l'État central, dans les institutions communes, est étonnant, même pour des standards bosniennes. Ça fait 8 ans que littéralement les institutions communes ne travaillent pas. La tragédie de ces pays est que, évidemment, les institutions sont bloquées, les pays au pouvoir sont toujours les mêmes, mais aussi, ce qui est, je pense, partie du problème, du point de vue légal, en Bosnie-Herzégovine, on ne peut pas avoir des élections anticipées. C'est-à-dire que vous voyez, même en Italie, même en France, si dans les parlements il n'y a pas une majorité, dans tout système au monde, plus ou moins, on organise de nouvelles élections et on cherche à avoir une nouvelle majorité. En Bosnie-Herzégovine, il n'y a pas cette possibilité légale. Donc ce qui arrive est que même s'il y a une crise politique Aujourd'hui, il faut quand même attendre soit les partis politiques se réconcilient, soit voilà, on n'a pas les numéros, on n'a pas les statistiques, on n'a pas les voix nécessaires au Parlement pour approuver des lois. Et ça reste comme ça. Il y a évidemment la possibilité d'approuver des nouvelles lois, mais il faut les faire à travers des négociations avec les partis politiques, très compliquées, très lourdes et très, franchement, comme la situation actuelle le démontre très bien, très, très étouffante, parce qu'on arrive, à un moment où tout le monde développe une espèce de droit de veto qui rend impossible approuver un projet de loi quelconque.